Bon, ben voilà, nous voici de retour sur... feu de tout bois. Pardon, j'ai pas l'habitude encore. Et donc, du coup, on était sur les annonces de l'agenda et on proposait de lancer l'habitat léger. Alors, ça attaque vendredi 28, donc demain, c'est-à-dire, à la mairie de Poyol à 15h avec un débat public. L'événement est organisé entre autres par l'espace social des Diois, l'association ALEM qui travaille sur des solutions d'habitat léger, l'association des habitants de logements éphémères ou mobiles et une association aussi Hameau Léger, association pour le développement des éco-hameaux réversibles. Alors je ne sais pas ce que c'est qu'un éco-hameau réversible, mais c'est pas grave.
Et ben oui, c'est-à-dire qu'en fait on peut monter un éco-hameau, hop! Et le démonter aussitôt. Par exemple, admettons, on est là dans la Drôme, tranquille, on se monte un petit éco-hameau. Si on le construit en pierre et tout ça, à la première problème technique dans les centrales qui sont pas loin, la centrale atomique qui sont pas loin, bam, on est atomisé, enfin tout ça. Alors que si on a un dôme, une tiny house et une tente deux secondes, et ben en deux secondes justement, on peut partir. Alors problème, bon là c'est un mauvais exemple parce que du coup il y aura l'armée dans les rues qui nous empêcheront de partir. En l'occurrence, donc mauvais. Voilà, l'éco-hameau réversible a aussi ses limites, mais si c'est pour autre chose que, enfin voilà, pour des trucs plus sympas qu'une explosion nucléaire, eh ben on peut rendre le terrain tel qu'il a été. Ce qui n'est pas le cas au passage des centrales atomiques qui rendent le terrain tel qu'il a été, mais au bout de plusieurs millions d'années. Voilà.
Tout à fait.
Bon, voilà. J'ai fait l'Astérix. Hein, oui.
Super, parfait, nickel. Donc du coup, ça attaque vendredi. Dans quel sens ça se lit cette chose-là? Donc, vendredi à 15h à Poyol par un débat public. Ensuite, à 17h, tout le monde est invité à l'espace social et culturel du Diois pour un pot d'ouverture, une exposition photo, des témoignages de personnes qui vivent en habitat plus ou moins léger. À 19h, il y a un repas. Pendant tout le long de cet après-midi, il y aura du clown, du théâtre, il me semble. À 20h30, la projection d'un documentaire. La baraque de Louvain-la-Neuve, c'était un quartier d'habitants alternatifs constitué dans les années 80 en Belgique, et à 21h15, un débat suite au documentaire. Et du coup, le samedi, tout a lieu à l'espace social et du coup, ça attaque à 10h par un atelier de montage d'un dôme en ski. Ne me demandez pas comment on fait.
Eh bien voilà, c'est-à-dire qu'on met des skis, on attend qu'il y ait de la neige, et on a un dôme à monter, et on doit s'entraîner. Ça, je pense que c'est pour vraiment en hiver, s'entraîner à l'hiver. Donc n'oubliez pas de venir avec vos skis, vos chaussures de ski pour bien être à l'aise, mais par contre, pour le haut, vous pouvez être tout nu. Voilà. Ce qui ne sera pas le cas cet hiver où vous devrez monter votre dôme, mais au moins vous aurez eu l'entraînement de le faire. Et un dôme géodésique est aussi un assemblage de bouts de bois un peu particulier, et on peut aussi remplacer ces bouts de bois par des skis. Et donc voilà, ça fait double usage.
Du coup, faire un grand dôme, parce que, enfin, est-ce qu'on a, avec beaucoup de skis, on fait un petit dôme, j'imagine ? On ne peut pas loger tout le monde, tous ceux qui avaient des skis.
Mais ce qui est très amusant, c'est que la structure structure polygonale du dôme, du Fuller Dome, quoi, de inventé hein, par Buckminster Fuller dans les années 60-70 à base de LSD et de Californie, mais quand même qui a monté une structure géométrique qui révolutionne le monde à la fois de l'architecture jusqu'aux nanoparticules, hein, puisqu'on découvre des... Enfin voilà, on peut suivre l'actualité scientifique, mais pas ici. Peut-être plus loin. En tout cas, ce dôme géodésique qui sert de dés aussi. Voilà les gamers à l'ancienne qui tiraient des dés qui n'étaient pas sur l'ordinateur comme ça, mais qui tiraient des dés 12 faces ou des 20 faces par exemple. Eh bien, ont utilisé sans le savoir pendant leur folle jeunesse des structures qui sont les mêmes que celles des dômes géodésiques et qui sont des solutions très très élégantes d'habitat nomade mobile.
Super. Et donc du coup à 11h, conférence débat sur la législation et la reconnaissance des habitats légers, c'est-à-dire un petit peu faire le point sur qu'est-ce qui existe, comment ça se passe, qu'est-ce que ça serait intéressant, quelles solutions, quel plus on peut apporter à tout ça. À 14h, un café lecture et de contes avec des textes de Louise Bex et des contes par Patrice Weiss. Je ne connais pas. 15h30, un documentaire Tabou en transit de Cécile Coureau. À 17h, une conférence débat Faciliter le développement d'éco-hameaux réversibles en partenariat avec les territoires qui les accueillent. 19h, toujours un repas par la cantine solidaire La Parallèle. À 19h30, un concert avec Ila, c'est de la musique kabyle et séfarade. Donc, vous avez pu les voir à Andarta il y a quelques semaines, il me semble. Et en tout cas, la salle était bondée, de chez bondée. Moi, je suis resté dehors à boire de la bière et j'ai rien entendu.
Bah donc, tu verras cette fois-ci, peut-être.
Non, je n'irai pas parce non, que je ne serai pas là.
Et, ouais, bon.
Et voilà, on a fait le tour de ça. Et,
donc ça, c'était vendredi et samedi.
Tout à fait.
Voilà, à savoir que c'est une, en quelque sorte un partenariat avec l'Allumette, avec le festival, oui c'est bien ça, hein, de l'Allumette, puisque ce festival était, ces rencontres d'Amita Léger étaient d'abord prévues samedi et dimanche, hein, comme souvent les rencontres sont prévues le samedi et dimanche, et ont été avancées d'un jour pour permettre de profiter à la fois des habitats nomades et mobiles et des luttes contre toutes les oppressions et toutes les dominations de Saillant, dont on vous a parlé juste avant, et même avant que l'enregistrement de cette émission ait commencé, car on commence, on débute à la technique, comme à chaque fois, et on n'a pas pensé à enregistrer le début de l'émission. Donc en fait, on a quand même commencé, on le rappelle pour ceux et celles qui nous écoutent en podcast, par vous détailler carrément, en détail, le programme de l'Allumette, le festival qui a lieu ce week-end, 28, 29, 30 juin à Saillant. Et puis si vous voulez le retrouver, c'est sur, tu disais, le site de la mairie de Saillant.
La mairie de Saillant, ouais, tout à fait. Ouais. Et il y a aussi, alors on n'a pas le programme en détail là, mais c'est pas grave, on va vous renvoyer sur le site de l'ESTDD un festival de la transition écologique à Oslon. Ça attaque samedi à 10h par un café citoyen autour de la transition écologique. Et il y a plein d'intervenants, ça se fait avec Dromolib, avec plein de monde, j'ai plus le truc en tête, mais vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site de l'espace social de l'IWA. Et voilà, y a, tout le week-end, à parler de transition écologique, réfléchir là-dessus, voir les solutions qui sont mises en place, parce qu'il y a déjà des solutions sur Oslon, enfin Oslon est un village qui est assez actif sur la transition, voilà, voilà.
Ponctué d'animation aussi pour tous les publics, qui j'imagine seront en lien... avec la transition également.
Ok, bah, cool.
Bah, Oslon, hein, voilà. Ce week-end. Il y a plein de choses ce week-end. Hein.
Ouais, trop c'est, de choses ce week-end.
Non, pas trop, parce qu'il y en a pour tout le monde. Du coup, ouais, on est quand même 10 000 habitants, habitantes dans le Diwa. Il faut de la place pour tout le monde. Ouais. Admettons, si tout le monde va faire un week-end, voilà, il n'y en a même pas assez, moi, je dirais.
Il faudrait un don d'ubiquité pour tout le monde aussi.
C'est voilà. Ça, bon, on sait, il y en a aussi qui vont aller se baigner, il y en a qui vont... Il y en a qui vont écouter la radio, par exemple. Mais ça tombe bien, car à Saillant, en fait, les trois jours, il y a des plateaux radio qui, avec, je crois, bien du direct. Et ça s'adresse aussi aux auditeurs et auditrices qui seront sur Cré et sa zone de diffusion ce jour-là, puisque Radio Saint-Fé, Radio Saint-Féréol, est aussi de la partie. Je peux rajouter au sommaire aussi, parce que je l'ai sous les yeux, un compte-rendu de la manifestation Gilets jaunes de Lyon du 22 juin de samedi dernier.
Okay.
Et puis un petit complément d'information sur la soirée du Service National Universel qui a eu lieu hier soir au Laboratoire Anarchiste, place Saint-Jean à Valence, et qui est un peu dans les voilà ce qui se passe en ce moment de... un des trucs un peu incroyables qui se passe, non pas tellement incroyable, mais en tout cas, disons que des années de pédagogie alternative ou de recherche en sociologie ou en psychologie sociale devraient nous dire non, il ne faut pas faire ça, attention, ça c'est le fascisme, donc militarisation de la jeunesse. Voilà, alors en Ukraine, pas en Ukraine par contre, pardon, en Russie, à l'occasion de la fête nationale, on vous signalait l'autre jour qu'on avait habillé des petits-enfants de 3 ans en militaire, voilà, wow, pour les faire défiler, sympa, puisque c'était c'était il y a quelques jours, c'était quand même le 8 mai, le 9 mai plutôt, le jour de la victoire, de l'Union soviétique, en l'occurrence, dont la Russie porte la mémoire, sur l'Allemagne nazie et sur les forces de l'Axe, on va dire. Mais voilà, à cette occasion, la Russie en fait une fête militariste. Et bien sûr, voilà, ça a un peu choqué. Okay. Il faut savoir quand même qu'en France, la maternelle va être rendue obligatoire apparemment à partir de 3 ans aussi, hein, oui, 3 ans et demi, ouais. Et que l'école publique a été aussi créée pour militariser la jeunesse et puis reprendre l'Alsace et la Lorraine. Hein. On répétera jamais assez qu'on embrigadait ces petits-enfants dans les cours de récréation, les faisant marcher au pas au son du tambour, en les faisant rentrer en cours au son du sifflet et en les faisant défiler dans les cours de récréation toujours. Alors les petits garçons, je suppose, hein, peut-être les petites filles, on leur faisait porter des brancards, et les petits garçons, on leur donnait un bâton pour faire comme s'ils avaient un fusil, et on les faisait marcher au pas. Voilà, la plupart des premiers instituteurs de cette école obligatoire étaient d'anciens militaires, de toute façon ça tombait bien, et ça correspondait au programme de l'État d'alors, et l'État n'a pas tellement changé, hein. Il y a beaucoup de propagande pour l'armée à l'école, alors pas directement dès la maternelle, mais je pense que les militaires sont prêts à reculer devant rien, mais en tout cas primaire, collège, lycée, lycée. Ça envoie du lourd. Donc voilà, en ce moment, il y a le service national universel qui est testé dans certains départements et qui est généralisable apparemment selon le gouvernement. Qui ne manque pas d'air, lui. Contrairement, on a réussi à ouvrir les fenêtres pour nous refroidir un peu, puisque la clim tourne toujours à fond dans le studio. Et en fait, on se rend compte qu'il fait bon, il fait chaud dehors même. Hein.
Ouais,
je vais essayer de pas trop transpirer sur la console. Je vais rendre la place à Céline à la console, d'ailleurs, parce que moi, je transpire trop. Je vais faire un court-circuit et nous électrocuter tous et toutes. Alors voilà. Échangeons. Je me lance une petite musique pour échanger.
Non, peut-être pas.
Non,
la peine.
Allez, hop.
On peut enchaîner.
Tac, tac, professionnel.
Du coup, est-ce qu'il y a d'autres choses sur l'agenda ? Ou est-ce qu'on a fait le tour ?
Alors, il y a des choses, mais qui ne sont pas immédiates. Donc, peut-être qu'il y a des choses plus urgentes.
Alors,
plus
dimanche 7 juillet, bien sûr.
Dimanche 7 juillet.
Les René Binamé et les Slugs à la Griotte.
Ah ouais, d'accord, yes. Oui. Okay,
oui,
cool.
Il est mignon, ce petit chat, je crois, s'appelle l'affiche. Bah, c'est, voilà, c'est un chat noir.
Yes. Trop bien. Bon, ben nickel. Cool,
et puis, oui, tu disais des trucs lointains, effectivement. Alors, moi, je vois dehors numéro 9, rencontre de spectacle très vivant du 23 au 27 août, de 10h à 0h, à l'école de l'Armaillet à Bourg-lès-Valence. Voilà, c'est si vous voulez aller en ville en août, en ville vers Valence. Voilà, pendant 5 jours, 20 compagnies sur 4 aires de jeu, spectacle tout public, à prix libre, hein, attention, et des sélections 100% locales, avec du clown, de la magie, du théâtre, des contes, du cirque, du théâtre visuel et sonore, etc., etc. Mais bon, vous voyez, du coup, c'est fin août, et ça s'appelle Dehors, c'est l'édition numéro 9, vous avez le temps de vous y préparer. C'était ça aussi, alors ?
Pour la rentrée prochaine.
Alors, pour la rentrée prochaine.
Projetons-nous en septembre.
Ok.
Des trucs.
Oui, et bien bon, c'est la danse, hein. Donc voilà, si le cœur vous en dit.
Beaucoup de danse, oui.
Oui, danse collective, mais en fait, a dit. Improvisation, ils ont une police un peu particulière. Éducation somatique, contact, improvisation, danse et environnement. Et effectivement, c'est plein de choses. Il y aura sans doute des informations sur votre radio RDIWA que vous écoutez actuellement sur le 107.5, on ne l'a pas précisé, au cas où les chiffres soient effacés sur votre... sur votre transistor, vous pouvez mettre un petit trait au marqueur. Et ici est le 107.5. Et pour les autres radios, on peut pas vous dire.
Ouais, non.
Non.
Voilà, non. On n'a pas le droit.
Quelle autre ?
Quelles autres radios, c'est vrai ça ?
Ok.
Ouais.
Et toujours de la danse, pareil en septembre pour de la danse libre, avec des journées mensuelles et des cours hebdomadaires. Donc la danse libre qui est une technique de danse contemporaine basée sur les réflexes et les coordinations spontanées du corps en mouvement. Voilà, il y a tout un programme à partir du mois de septembre. Tout ne nécessitant pas forcément une adhésion ou un engagement à l'année. Donc ça, c'est plutôt pas mal.
Ok, et du coup, il y a un atelier qui se fait aussi. Rendez-vous sur l'agenda d'ensemble ici. Fright Club, c'est un atelier pour travailler sur nos peurs. J'imagine que c'est un peu intime, mais que ça va être super intéressant.
Mais en tout cas, tellement intime qu'il n'y a que ce lien internet qui nous renseigne, aucun autre. C'est
rien
un mystère.
Ouais.
Donc sur Ensemble ici. Bon, c'est pas un mystère très longtemps parce que trouver quelqu'un qui a internet et puis. Et puis voilà. Allez, ce week-end encore, et là, si vous voulez quitter le Diwa et aller loin, eh bien, il y a le congrès de l'Union pacifiste qui est dans le Cher. Voilà, c'est l'union de... C'est... Voilà, on en a parlé déjà la semaine dernière. C'était encore le moment de vous inscrire. Là, vraiment, allez-y. Je vais quand même dire les villages où ça se passe. Alors, c'est à Champtain. À Champtain par Crézancy. Voilà, et à Neuville-de-Clocher, voilà, dans le Cher. Donc, cherchez ça sur une carte du Cher, et allez-y, des repas partagés, et puis aussi, bien sûr, il sera temps d'adhérer à l'Union pacifiste, de retrouver un membre de l'Union pacifiste du Diwa, qui est vaillamment parti là-bas, et pour rendre compte de ce qui se passe au niveau pacifisme dans notre région. Donc voilà, et puis qui reviendra avec plein d'informations sur ce qui se passe au niveau pacifiste dans plein d'autres régions de France et du monde aussi, puisque l'Union pacifiste est partie prenante de l'International des résistants
et résistante à la guerre de l'IRIRW. Voilà, s'il y a des anglophones qui nous écoutent.
Ok, bon ben nickel, on est bon sur l'agenda.
Sur l'agenda, est-ce que oui.
Ok, bah, oui, parfait. Oui. Alors, du coup, moi je suis venu. Je me lance direct sur ce sujet-là.
Comme ça nous prépare pour l'arrivée éventuelle. De la réunion qui a lieu en ce moment à la Comcom à propos de l'hôpital de proximité. Mm.
Donc moi je suis venu un petit peu avec plein d'interrogations. Effectivement, j'ai appris il y a quelques semaines maintenant, je dirais, qu'il y a un projet de création d'hôpital sur la zone de Chamarges. Ouais, c'est ça, Chamarges, donc du coup à côté de l'héliport. Pour présenter succinctement un peu les choses, donc du coup ce projet de construction, ça serait sur une horizon 2020-2022. Un hôpital tout neuf a dit, en théorie, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose, mais voilà. Du coup, il y a plein d'interrogations. Déjà, j'ai une première interrogation. Comment se fait-il qu'on dégage 12 millions pour un hôpital, ce qui est une somme finalement assez modique pour la création d'un hôpital, en fait. Puisque au niveau équipementier, c'est des sommes assez bien plus importantes que ça. Du coup, on se demande bien ce qu'on va pouvoir se payer avec 12 millions. Et du coup, il y a ça. Il y a le fait que l'hôpital de Die, lui, est en train de tomber en désuétude. C'est-à-dire qu'on a fermé, il y a un an et demi, la maternité. On connaît tous les conséquences que ça a eues, dramatiques. Une première mort in utero il y a quelques semaines de ça, une marche blanche qui a eu lieu, qui a touché énormément de monde. Ça a été un événement où ben, les habitants se sont sentis profondément attristés, profondément solidaires avec la famille. Et voilà, en gros. Et du coup, il y a eu aussi deux accouchements qui ont été faits plus ou moins sur le bord de la route, en voiture, en tout cas le transport jusqu'à la maternité de Montélimar, qui est à plus d'une heure de route, rappelons-le, a été assez difficile. Ça a été des moments d'incertitude, ça a été des moments d'inquiétude pour les familles, de stress, de prise de risque, Voilà les conséquences de la fermeture de la maternité. On a aussi fermé le bloc opératoire. Et il y a eu une fusion de la gériatrie, de la médecine gériatrique et de la médecine polyvalente. Donc voilà, des services qui ferment de plus en plus. Il reste encore quelque chose, il reste encore des urgences, il reste encore un service de radiologie qui, si je ne m'abuse, ne fonctionne pas. Parce qu'en fait, du coup, il y a eu plusieurs textes. Il y a eu un premier texte qui m'a interpellé. C'est une lettre ouverte de plusieurs personnels soignants, d'une trentaine de soignants du DIWA, à la fois hospitaliers et libéraux, qui se sont interrogés sur l'avenir de leur hôpital, sur les dysfonctionnements qu'il y a, qui sont nombreux, en fin de compte. Pourquoi est-ce que c'est notre hôpital, qui est une place centrale de la santé dans le coin, on rappelle que pour des gens qui habitent à Borrières, pour des gens qui habitent à la Motte-Chalancon, pour des gens qui habitent surtout le Haut-Diwa, Val-d'Rome et tout ça, c'est quand même pas mal d'avoir un lieu de santé, et il est en train de se faire détruire. Il y a plein de problèmes. Il y a des problèmes au niveau des plannings. Les plannings sont faits à couteau tendu. Il y a des problèmes de personnel. Les soignants de l'hôpital de Die ne savent pas quand les spécialistes qui viennent de Valence viennent. Enfin, ils sont prévenus à l'arraché au dernier moment. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas planifier des soins pour toutes les personnes qui en ont besoin ici. Enfin voilà, cette lettre ouverte, vous pourrez la retrouver sur la page de Erdiwa. Ça fait quand même 8 pages, donc je ne peux pas la lire dans son intégralité. Mais voilà, il y a plein de questions qui sont posées, notamment sur comment est-ce qu'on fait. C'est la question qui finalement ressort complètement du cas du drame qui s'est passé. Comment est-ce qu'on fait si il y a une urgence et que l'hélicoptère est déjà déployé sur une autre urgence, par exemple en Ardèche, parce que ben, c'est la même situation sur toutes les zones rurales en fait. Tout ça s'inscrit dans un plan santé qui s'appelle Ma Santé 2022, qui vise à installer des hôpitaux de proximité de partout. Des hôpitaux de proximité qui répondent à un label qui lui définit des missions tout à fait particulières, précises, qui sont de la santé, de la médecine polyvalente. Alors, médecine polyvalente, des soins aux personnes âgées, les soins de suite et de réadaptation, et les consultations de spécialité et les consultations non programmées. Donc ça veut dire qu'un hôpital de proximité, comme celui qui va être construit sur la zone de Chamarges, ne garantit aucun service spécialisé. C'est absolument hors de question, ça ne correspond pas au label des hôpitaux de proximité. Ça, c'est pour tous les nouveaux hôpitaux qui vont être créés et pour tous les hôpitaux qui vont être qui sont déjà existants, qui vont être labellisés hôpitaux de proximité. Du coup, c'est une réduction du nombre de lits. C'est un hôpital qui aura 60 lits pour des soignants et 60 lits pour des personnes âgées en situation de dépendance. C'est un projet qui, vraisemblablement, selon la loi de santé 2022, renforce un partenariat public-privé, ce qui peut être une très bonne chose. Mais notamment en passant par des agrémentations pour les augmentations d'honoraires. Je vais essayer de vous faire la loi dans ses grandes lignes. En fait, c'est une loi à 3,4 milliards d'euros, avec 400 millions d'euros de déficit net. Donc, à quelque part, c'est bien aussi d'investir pour la santé. Mais du coup, en fait, ça détermine un maillage du territoire avec des espèces de grosses plateformes avec beaucoup de technicité. Notamment à Valence, des petites plateformes, des hôpitaux de proximité qui vont mailler le territoire. Et à partir de là, on s'occupe du soin pour la personne qui est en ruralité par télésoins, c'est-à-dire que les gens vont pouvoir être consultés uniquement par Internet, par live cam. Et du coup, c'est une démarche qui n'est pas assujettie à une consultation physique préparatoire. C'est-à-dire qu'on peut soigner quelqu'un par Internet sans l'avoir jamais vu, en connaissant juste son nom, son lieu d'habitation et son dossier. Alors du coup, son dossier médical, qui sont des données informatiques, mais voilà.
Alors, petite incise, jingle nous a été proposé par le ministère de la Santé. Pom, 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 la plus belle télé, c'est Télésoins.
Ouais, c'est, voilà.
Je vais se reprendre.
Voilà, en gros, il y a ça. Donc, des dépassements d'honoraires, c'est pas grave, ça, puisqu'on va avoir tiers payant pour tous. Donc, on va pas voir qu'en fait, on va payer énormément de cotisations pour finalement... enfin, voilà. Donc, il y a ça. On va peut-être s'arrêter sur la santé 2022, revenir sur l'hôpital. Donc du coup, l'hôpital de Die, c'est un hôpital qui a quand même pas mal de services. Et il y a plein d'incertitudes sur qu'est-ce qui va être préservé, en tout cas sur l'hôpital existant encore, jusqu'à ce que le nouvel hôpital arrive. Je rappelle que la zone de Chamarges, sur les terres sur lesquelles c'est censé être construit, c'est une zone agricole. Déjà, c'est une zone agricole extrêmement fertile. C'est la dernière qui nous reste aussi proche du territoire.
Proche de la ville de Die.
De la ville de Die, ouais, tout à fait. Merci. Et bon, alors après, si on met ça en lien avec des possibilités de devoir se nourrir avec du local prochainement, parce que économiquement, il peut se passer énormément de choses économiquement en termes de climat. Enfin, voilà. Je pense que c'est bien de préserver les terres agricoles. En plus de ça, ce sont des terres sur lesquelles existent 13 espèces qui sont protégées. Donc il y a peut-être aussi des préalables à faire pour préserver ces espèces. Voilà, on peut se poser la question. Et moi, je me pose notamment la question de qu'est-ce que vont pouvoir faire toutes ces personnes qui vont être en EHPAD, déportées dans la zone de Chamarges, loin du centre-ville, loin de leurs amis, loin de leur famille, loin des commerce, loin d'un accès à un journal, loin d'un accès à de la sociabilité, loin d'un accès à tellement de choses, à tout ce qui fait que ils peuvent plus facilement vivre une vie, parce que la vie en EHPAD, ça quand même plein. C'est des conditions que je souhaiterais pas forcément à tout le monde.
C'est un isolement qui se rajoute à l'isolement.
Quoi. Voilà, c'est super. Donc c'est marchandiser la santé et puis détruire les liens sociaux. Quoi.
Puis j'entends plus souvent parler de mort à l'EHPAD que de vie à l'EHPAD en vrai. Ceci dit, par rapport à ta critique par rapport à l'autosubsistance alimentaire, on a là une merveilleuse production de cadavres qui se met en place. Et pour les personnes qui ne sont pas végétariennes, voilà, on aura sur place.
Eh bien, on va pouvoir ouvrir un McDo près de l'EHPAD, c'est okay. Magnifique.
Et pour ce qui est des espèces protégées, il suffit d'une petite loi qui place l'être humain comme espèce protégée et on sera prêt à n'importe quoi pour lui, c'est-à-dire à le faire survivre à coup de médicaments et même de poisons. Alors bon, y en aura qui feront les cadavres pour nourrir les vivants et les vivants qui seront perfusés, mais sauvés peut-être en tant qu'espèce. Non, je blaguais, le temps de te laisser prendre la deuxième partie de ton...
Parfait. Je vais quand même lire un petit texte que j'ai retrouvé il y a deux jours, qui dure une petite page, qui est une tribune, qui a été signée par plusieurs personnes, notamment Corinne Morel d'Arleux, qui est conseillère régionale, par la Confédération Paysanne de la Drôme, par Claude Métivier du syndicat CGT de Die, Amélie Clément, qui est une aide-soignante contractuelle à l'hôpital. Voilà, donc je vais revenir là-dessus.
Ce texte pour préciser.
Alors, du coup, un nouvel hôpital. Nous sommes tout en question au sujet d'un nouvel hôpital qui serait implanté dans la zone artisanale de Die à proximité de l'héliport. Ce projet a été décidé par quelques temps sur un coin de bureau ou dans un couloir. Il chamboulerait toute la vie locale. Nous interrogeons sa légitimité. Santé, recruter ou bétonner. Les hôpitaux souffrent avant tout d'un manque de personnel, difficulté que la construction d'un nouvel hôpital ne résoudra pas. Une coquille vide serait-elle dans l'intérêt des usagers? Le serait-elle en particulier pour nos anciens de l'EHPAD qui se retrouveraient en banlieue, coupés du monde et de la vie sociale, sans aucune possibilité d'accès autonome à un café, un coiffeur, une ambiance et des sourires de passants. Les terres agricoles d'Ivoise sont de plus en plus rares. La flore du terrain d'implantation pressentie est très riche. La sixième extinction des espèces est en cours. La superficie d'un département est artificialisée tous les 7 ans. Un chantier tout béton génère de la pollution. La voiture individuelle pèsera encore plus sur l'organisation territoriale. La réhabilitation d'un bâtiment ne coûte pas nécessairement plus cher qu'une construction neuve si l'on tient compte de toutes les externalités négatives. Ces constats sont interdépendants. Aussi, le projet actuel de notre nouvel hôpital ne nous semble pas réfléchi, voire d'un autre temps. Nous prioriserons l'implantation en centre-ville. Un plan local d'urbanisme intercommunal est en cours d'élaboration. L'emplacement et l'entreprise foncière de ce nouvel hôpital s'imposeraient aux politiques locales, au mépris de l'idée même d'une concertation. Par exemple, ce projet de grand déménagement de plusieurs centaines d'emplois et d'usagers ne serait-il pas préjudiciable à l'économie locale et plus particulièrement à celle du centre-ville de Die? Ne serait-elle pas contradictoire avec les engagements de nos élus locaux à revitaliser le Die centre-ville? Le maire de Die a été élu sur un programme dans lequel il indiquait que dans le domaine de la santé ou dans d'autres domaines, nous prioriserons l'implantation en centre-ville. Par ailleurs, la communauté des communes du Dieuze a souhaité valoriser les potentialités commerciales, sociales, culturelles du bourg-centre à travers le financement de l'opération Village Vivant. En bref, on arrête tout et on réfléchit démocratiquement, collectivement, intelligemment. Voilà, donc ça c'est un petit peu...
Oui, donc c'est récent en fait, j'ai annoncé en disant, de quand date cette tribune?
Oui, ça a deux ou trois jours, ça m'est parvenu il y a 2-3 jours, donc je pense qu'elle n'a pas beaucoup plus. Voilà, et du coup, alors ça j'en avais pas besoin.
Alors je propose un petit jingle pendant que tu prépares la suite de ton dossier. Eh bien voilà, si vous aussi vous trouvez que les testaments c'est trop long à faire et que vous voulez vous débarrasser de vos affaires en trop avant de passer au nouvel hôpital qui, on l'a compris, sera d'une efficacité redoutable pour faire oublier votre malheur, il y a un vide-grenier et marché paysan. Alors c'est surtout pour le vide-grenier, hein, mais marché paysan parce que, ma foi, s'il nous reste quelques jours à vivre, autant bien manger. Samedi 13 juillet, bon, faut tenir jusque-là, de 9h à 16h, c'est toute la journée. Et c'est où? C'est dans un coin de fraîcheur adorable du Diois qui s'appelle Val-Drôme. Et c'est, on peut s'inscrire, alors si vous-même voulez exposer et tout, au 06 25 71 71 53. Et c'est le numéro de téléphone du Bar à Coucou. On peut leur envoyer un mail, baracoucou.contact@sfr.fr. C'est à Valdrome, vous pouvez aller les voir directement. Et ce sera le quartier général de l'organisation de ce vide-grenier et marché paysan, samedi 13 juillet, samedi toute la journée, donc de 9h à 16h. À Valdrome. Suite pour le, une blague d'hôpital à Chamarges.
Alors,
j'avais parlé de projet, mais on peut dire blague. Mais ceci dit, c'est vrai. Enfin, écoutez-nous quand même.
Après, du coup, il n'y a que ma vision à moi qui est.
Qui est complètement biaisée, bien sûr.
Oui, qui est complètement biaisée, c'est sûr. Déjà, d'une part. Non, mais voilà, c'est mes interrogations. J'ai essayé de faire des recherches, ça fait 4 jours. Je ne connais certainement pas tout le dossier, c'est certain. Mais voilà.
Et puis t'as un petit côté vicieux qui fait qu'en fait on peut pas du tout te faire confiance pour défendre l'institution merdique.
Ça se pourrait. Donc du coup, pour essayer de vous présenter un petit peu ce qui se passe, j'ai essayé de vous présenter les personnes, enfin les personnes, les institutions qui sont concernées par tout ça. Donc du coup, on va dire que le terrain est acheté, ou en tout cas préempté par l'ARS, qui est l'Association Régionale de la Santé. C'est une institution qui s'établit à Valence, qui est ce qu'on pourrait appeler la préfecture de la santé sur le territoire, donc qui centralise tout ce qui est politique de santé, voilà, tout ça. Et donc, il y a ça, et c'est un partenaire, enfin, du coup, c'est un projet qui se fait en collaboration avec la communauté de communes, donc, et la municipalité. Et du coup, on a un certain nombre de personnes qui se sont rencontrées, et ça nous. Ah mince, j'ai pas. Enfin voilà, il y a le, du coup il y a le sénateur de la Drôme, j'ai bouffé son nom, le maire de Die, le président de la communauté de communes et d'autres élus locaux qui ont rencontré le collectif de défense de l'hôpital de Die. Et en fait, on va dire que la position qui ressort, enfin, ce qui ressort de cette rencontre, en fait, c'est que messieurs, les politiques de la région, je suis vachement fort là, non ?
Ouais, je vais te baisser. Continue.
Yes.
Voilà,
Mathieu,
c'est ça.
Ok, c'était ça. Ok, et donc, du coup, c'est se contente de botter en touche quand on leur pose des interrogations. Et d'expliquer que c'est le projet de loi Ma Santé 2022, que voilà, c'est les directives verticales. Donc du coup, il n'y a absolument eu aucune concertation. Il y a eu des tentatives de pré-consultation avec le SCDD qui s'est retrouvé à essayer de porter la parole du territoire, en tout cas des habitants qui étaient... ça, c'était au tout début que la maternité est fermée. Donc, ils ont essayé de faire tout ce qu'ils pouvaient pour faire reconnaître un petit peu les problématiques qu'il y avait sur l'hôpital. Et ça a été assez difficile de prendre en compte, en fait. Ils se sont heurtés à des personnalités qui étaient extrêmement, on va dire, dans un engrenage bureaucratique, on peut dire, quoi, dans un, voilà, une manière de faire qui est très, très structurée, très, très calée, et en fait, où l'ouverture aux propositions des autres n'est pas toujours évidente. Voilà. Alors du coup, j'ai bien envie de reprendre quand même cette lettre ouverte qui pose plein de problématiques sur la situation de l'hôpital de Die à l'heure actuelle. Donc, on peut faire un point sur ce qu'offre l'hôpital de Die encore à l'heure actuelle. Un service d'urgence ouvert 24 heures sur 24. C'est un service spécialisé, donc ça sautera dans le projet du nouvel hôpital. Il n'y aura plus d'urgence. Comme il n'y a plus de maternité, je suis encore vachement...
Un petit réglage, ne t'inquiète pas, voilà ça.
Ok, yeah. Et il y a un peu de reverb. Est-ce qu'il y a de reverb?
Voilà, ça y est.
Reverb, non, c'est pas moi. Et donc, du coup, un service d'urgence ouvert 24 heures sur 24, un service d'unité d'hospitalisation de courte durée où se poursuivent les soins initiés aux urgences. Donc un service d'hospitalisation de courte durée, ça je pense que ça reste. Un service de médecine qui correspond essentiellement à un court séjour gériatrique et quelques lits en médecine polyvalente, ça reste, ça fait partie des missions. Un centre de périnatalité qui assure le suivi des femmes enceintes et du postpartum, ainsi que des consultations gynécologiques et IVG médicamenteuses à domicile. Je ne suis pas sûr que ça reste. Oui, dans les rapports de l'ARS, on ne fait absolument pas mention que la maternité a disparu et on préconise une politique médicale envers les femmes, principalement centrée sur la contraception. Voilà. Un service de soins de suite et de réadaptation, ça reste. Un service de soins infirmiers à domicile, ça, je pense que ça va rester. De toute façon, plus dans un partenariat public-privé, c'est tout à fait facile à mettre en place avec des libéraux. Un service d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, incluant le service d'hébergement pour patients âgés atteints de maladies neurodégénératives, le fil de soie, donc il n'y a pas de raison que ça saute. Un ESAD, équipe spécialisée Alzheimer à domicile, ça m'étonnerait que ça reste. Une garde itinérante de nuit, je pense que ça, ils vont quand même le laisser. Un service de radiologie avec écho Doppler, mammographie, scanner programmé et urgent, radiographie, échographie. Je ne suis pas sûr que ça reste non plus. Ça me semble être quelque chose de spécialisé. Une activité de biologie médicale délocalisée 24h sur 24, située au service des urgences. Je ne suis pas sûr non plus que ça reste. Des consultations externes assurées par des spécialistes venant faire des consultations sur l'hôpital de Die. Ça va rester. Mais jusqu'à présent, ça fonctionne super mal. Je ne sais pas ce qu'ils arriveront à améliorer la situation. Et voilà, on est pas mal. Alors donc du coup, il y a
donc ça, c'est ce qui existe actuellement.
Ça, c'est ce qui existe actuellement.
Et avec notamment des investissements récents. Je crois que c'est un scanner.
Il y a un scanner. Alors oui, alors le scanner
qui a été acheté. Là, tu nous dis comme ça. Oh, je suis pas sûr que ça reste. Bon, quand
oui,
même.
Oui, je suis pas sûr.
Alors, est-ce que ça se revend d'occasion? Regardez sur le bon coin si vous voyez un scanner à vendre.
Alors, a priori, l'ARS peut acheter des scanners à l'appel pour des hôpitaux.
À l'appel d'offres.
Oui. À l'appel d'offres, oui, certainement. Par contre, c'est les radiologues, ça, et c'est pas les amener dans les hôpitaux où elle a acheté des scanners. Et du coup, les scanners, à l'heure actuelle, a dit, les gens les passent, personne ne sait les interpréter, et du coup, on envoie les gens avec leur scanner sous le bras, à Valence, pour interpréter le scanner, revenir à Die, et puis voir après ce qu'on fait. Voilà. Voilà. Par exemple, je peux vous lire un petit passage qui parle de radiologie sur la lettre ouverte des médecins, des personnels soignants de Die. Les mammographies n'ont plus été possibles sur Die pendant de nombreux mois malgré un matériel neuf et de pointe. Nous ne savons que répondre à nos patientes qui nous demandent si elles peuvent faire leur mammographie sur Die. Les échographies ostéo-articulaires ne sont plus possibles depuis l'arrivée du scanner. Expliquez-nous pourquoi. Nous avons cru comprendre que le scanner était maintenant utilisable pour les urgences, mais cela reste du bouche à oreille. C'est pourtant un critère déterminant pour l'orientation des patients lors de certaines situations d'urgence. Quid des échographies des nouveau-nés nourrissons à pratiquer dans le premier mois de vie ? Transfrontalière, rénale, blanche, ça c'est des termes techniques. Actualité, un jeune couple parental du Haut-Diois doit se rendre à 2 jours d'intervalle au CH de Montélimar. 1h45 de route aller, début juillet pour ce type d'examen. Donc c'était en début de mois, avec un nouveau-né de 3 semaines et la chaleur estivale. Et précarité ne rime toujours pas avec voiture à air conditionné. Je rappelle, pour la petite information en passant juste comme ça, que chaque Français a le droit, c'est inscrit légalement dans la loi, à un service d'urgence à moins de 45 minutes de trajet et un service... de maternité à... Alors non, c'est urgence à moins de 30 minutes et maternité à moins de 45 minutes. À l'heure actuelle, notre service d'urgence est toujours à Die. Notre service de maternité, il est à peu près à 1 heure de route. Voilà. Donc du coup, il y a ça. Donc la problématique...
Oui, puis c'est ce qui concerne le Diois, parce que là, on vient de je viens de faire une annonce pour Valdrome, mais je regrette, parce qu'en fait, si des gens vont... Ils vont à Valdrome et font un malaise... Non, bon, on est quand même à portée de l'hôpital de Die. Mais bon, n'allez pas à vide-grenier dans plus de temps, quoi. Ouais,
oui, alors, mais suivant...
C'est-à-dire que le Diois, c'est plus grand que Die, et dès qu'on est dans une
montagne, on est encore à l'hôpital de Die, et encore un service d'urgence de Die, c'est vrai. Mais effectivement, on est dans une zone touristique. Il y a 2 semaines, il y a eu 2 accidents extrêmement graves, dont un mortel à moto, un de route de Vercheny, un à Luz-la-Croix-Haute. Du coup, notre service d'urgence, là, à l'heure actuelle, alors il fonctionne, mais assez mal, parce qu'il est en manque de personnel. Comme je vous le disais, les personnes font leur... le planning des postes se fait à couteau tiré, parce qu'en fait, ils n'ont personne. Donc, ils ont chié grave pour pouvoir accueillir tout le monde. Et là, avec le triplement de la population du Diwa avec la période estivale, ça s'annonce sympa. Et en plus que des motards, il y en a gavé, parce qu'il y a des super routes à prendre à moto dans le coin. Et du coup, il y a énormément de passages à moto. On sait que c'est un transport qui rend le conducteur fragile. Mais c'est pas grave, on va juste laisser les urgences s'étouffer toutes seules dans leur mal-être. Comme ça, on pourra héliporter tout le monde avec un hélicoptère qui devra faire Valence, le col de la Chavade, revenir à Lyon, repartir à Montélimar. Enfin, voilà. C'est du gros trip, du gros gros délire.
Ce qui n'attirera pas non plus des professionnels de santé à venir s'installer dans le coin, dans la mesure où, de toute façon, il n'y a pas de maternité, il n'y a pas de gynéco, ça n'attire pas les gens à venir.
Ça n'attirera pas les gens, et certainement pas les actifs, et donc du coup, ça facilite encore un petit peu la mort de la ruralité. Dans les autres petits passages qui peuvent être lus sur cette lettre ouverte, je peux lire la conclusion.
Cette lettre ouverte alors ?
Alors cette lettre ouverte, moi j'ai eu accès parce que j'ai cherché un petit peu par-ci, par-là, j'ai demandé un coup ici, un coup là, savoir quelles infos on pouvait avoir, et du coup on m'a donné un document puis un autre. Du coup, j'ai laissé sur l'ordinateur de
Diwa. Ah, donc on l'aura sur la page de l'émission.
Voilà,
sur la page de l'émission.
Donc du coup, juste un petit passage assez explicatif. Être soignant, c'est un accompagnement de la vie et donc de la mort. Or, la vie est un mystère qui ne peut être mis en tableau ou en PowerPoint pour des soi-disant critères de rentabilité et d'optimisation comptable. On essaie de nous faire croire que les soignés peuvent être traités comme des objets et que les soignants peuvent agir comme des automates, qu'ils peuvent produire toujours plus d'actes en moins de temps, qu'ils peuvent donner toujours la même réponse à la même problématique. Mais le temps d'un soin de l'humain ne rentrera jamais dans cette vision étriquée et fausse. Un soignant ne produit pas des boîtes de petits pois, il participe à soutenir et accompagner chaque soigné dans le fleuve mystérieux de la vie. Pour eux, il y a un énorme manque de communication et de cohérence dans certaines instances décisionnelles. Effectivement, on peut se poser la question de à quel point les soignants sont écoutés sur le territoire par rapport à l'avenir de leur hôpital. En sachant que je pense que très certainement, il y a aussi un effet merci du renouveau qui doit être présent parmi les soignants, qui vivent dans des conditions de travail assez incroyables. Enfin, de toute façon, vous vous rendez bien compte au niveau national que les soignants, ils sont en train de péter un scan à tous les niveaux. J'en étais où ? Je suis désolé, j'ai du mal à faire la suite de mes idées.
Que les soignants, qu'on n'écoute pas trop les soignants, au niveau local ou comme tu le disais, au niveau national, ou c'est plutôt la police qui va chercher les personnes en grève, voire les personnes en arrêt maladie chez elles afin de les forcer à travailler.
Voilà.
Je te laisse reprendre.
Ouais, merci. Et donc, du coup, pour eux, il y a un saucissonnage systématique entre les différentes instances et les différents intervenants du soin. Hiérarchisé dans une gouvernance verticale ne nous permet pas de travailler en étant informé, partenaire, acteur. La confiance est donc rompue. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Peut-être que ça m'aidera à rebondir, parce que pour le moment, j'étale des trucs.
L'intégralité de cette lettre ouverte, déjà sur le site, le site de RDIWA, à la page de l'émission, rdwa.fr, sur la page de Feu de tout bois. Et puis, des questions, venez les poser directement. en direct et en public. Ou essayez d'appeler le 095-2368-531.
Et du coup, également, en document, ce que je vous ai proposé, du coup, c'est la tribune « Tiens, un nouvel hôpital » que je vous ai lu tout à l'heure. J'ai mis également quelques documents qui sont, par exemple, un petit topo sur la situation économique des hôpitaux en France, où on se rend compte qu'ils ne sont plus rentables que depuis 2019 pour les hôpitaux ruraux. En fait, les plus non rentables, ce sont les gros hôpitaux des grosses villes. Enfin, il y a tout un tas de graphiques que vous pourrez consulter. Et du coup, aussi, le projet de loi, la première consultation au Sénat, c'est absolument imbouffable. Hein. Je vous le dis, il faut avoir envie.
Mais tu nous l'as quand même mis sur la page de
télécharger. Tout ce qui est problématique nationale, je vous l'ai un petit peu mis. En fait, il y a plusieurs trucs qui sont encore assez affolants dans cette loi, des choses qui m'interpellent. C'est que du coup, par rapport au fait de donner envie aux médecins de s'installer dans la ruralité, donc du coup...
il ne faut pas tapoter sur la table. Hein,
ah oui, pardon. Oui,
non, oui, ça, les voisins sont pas contents.
Ok.
Qui nous écoutent à la radio.
Donc du coup, il y a tout un dispositif de financement des cadres de la santé et des médecins par de l'intérim. En fait, il y a plus d'un milliard qui va être dégagé pour donner plus d'argent au personnel soignant encadrant, on va dire, plus que les aides-soignants, les infirmiers qui sont toujours laissés pour compte. Alors il y a ça. Moi, c'est le truc qui me...
C'est-à-dire que le petit personnel serait de plus en plus intérimaire. C'est ça que tu es...
Alors, sur l'intérimarisation, je pense qu'il y a un plan d'intérimarisation pour justement... créer des postes intérimaires sur les zones rurales pour justement commencer à pallier à une dynamique. En fait, on va dire qu'il y a une volonté de pouvoir décider à la place des médecins où est-ce qu'ils vont s'installer. Alors, théoriquement, doit être efficace. Je ne sais pas si c'est très sympa pour les médecins. En tout cas, il y a un point qui m'a paru complètement aberrant. Il y a une interdiction formelle pour tout médecin qui viendrait travailler à l'hôpital de Die, à mi-temps, par exemple, de s'ouvrir un cabinet, par exemple pour une infirmière à mi-temps, qui aura un emploi à mi-temps, parce que c'est très certainement ce qui va se passer, des emplois plus précarisés pour les infirmiers et les infirmières.
Comme dans les clubs de vacances, quoi.
Ouais, donc un emploi à mi-temps ne pourrait en aucun cas avoir une activité d'infirmière libérale, pouvoir compléter son salaire sur le territoire. Il faudrait qu'elle aille s'installer quelques dizaines de kilomètres plus loin. C'est génial. Voilà, il y a ça. Et le truc qui est complètement alarmant, selon moi, c'est que dans cette loi, il y a contenu des possibilités. En fait, c'est-à-dire le droit au gouvernement de pouvoir légiférer par ordonnance sur les modes de recrutement, le fonctionnement des recrutements et les dispositifs de recrutement des nouveaux personnels soignants. La mission des ARS la mission des hôpitaux. C'est-à-dire mettre sous décret antidémocratique le fonctionnement de la santé en France. Ah oui, et il y a un autre truc aussi qui est rigolo, c'est que sur ce projet de loi, à aucun moment on ne parle d'usagers de la santé, on parle de citoyens. Ce qui délimite nécessairement les personnes qui ont une carte d'identité de celles qui n'en ont pas.
Eh bien, ouais, on voit que c'est un projet de loi qui est dans le droit fil de cette idéologie, selon lequel, en créant un milieu de plus en plus dur, eh bien, les plus forts vont s'en sortir et créer une société meilleure, puisque ce sera les plus forts. Ben, déjà, tous les handicapés, tous les malades, tous les pauvres, les exclus, les tarés, les alcooliques, les drogués. Hein, tu parlais de vieux dépendants, et ça veut pas, oui, de personnes âgées dépendantes.
Ouais,
ça ne veut pas dire les vieux drogués, mais bon, les vieux drogués, c'est pareil, ce sera très très dur pour ces personnes aussi. Voilà, donc on voit que le gouvernement suit cette ligne idéologique qu'on va faire d'une sorte de meilleure société en sélectionnant les gens. Et en fait, ça ne marche pas, hein, la science, depuis, je ne sais pas quand, elle est encore montée à Kropotkine, mais jusqu'à toutes ces dernières années, nous montre que non, en fait, l'entraide et la coopération sont beaucoup plus favorables à la survie et à l'amélioration, si on peut pas parler d'amélioration, en tout cas d'être meilleur, d'être mieux, d'être plus dans plus de bien-être. De l'espèce et de la biosphère. Donc ce gouvernement est très has-been sur ses croyances pseudo-darwiniennes. On peut dire, c'est même c'est pas non plus la croyance de Darwin que la survie du plus apte et tout ça, c'est l'interprétation que les capitalistes libéraux en font. Et donc ils nous tartinent ça. Quand je parlais des petites mains tout à l'heure, enfin j'ai évoqué les petites mains et les petits personnels, dans les hôpitaux il y a aussi ceux et celles qui font le ménage, grâce à quoi on n'a pas trop de maladies nosocomiale, ceux et celles qui font à manger, ceux et celles qui font à manger pour ceux et celles qui font le ménage et qui font et qui sont soignants aussi, si tant est qu'ils aient encore une cantine prochainement. Enfin bon, tout ce personnel-là, c'est aussi à eux que à ce personnel-là que je pensais quand je parlais d'intérim ou de partenariat avec le privé, c'est que voilà, ce sera encore plus la précarité pour les sans grade.
Et en plus,
ils sont même pas soignants. Alors là, tout, alors que quand même dans un hôpital, s'il n'y a pas ça, pas d'hôpital.
Tout le fonctionnement, que ce soit administratif, en ressources humaines, en termes de disposition de matériel ou quoi, sera géré par l'ARS à Valence. Enfin, en tout cas, non, pas par l'ARS à Valence, pardon, sera géré par le comité de direction de l'hôpital qui regroupera Valence d'ICRE, par exemple. En tout cas, ça sera... Voilà, c'est... du coup, pour moi, ça nécessite... Enfin, ça signifie forcément des conflits d'intérêts et des conflits au niveau de répartition du personnel sur le territoire, parce que de toute façon, on sait très bien qu'ils sont en sous-effectif et qu'ils ne peuvent pas être partout en même temps. Le don d'ubiquité, ça serait vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Hein. Décidément, autant pour s'éclater que pour pouvoir aider tout le monde, quoi. Qu'est-ce que quoi d'autre ? Oui, il y avait un autre point, tu m'as fait penser encore quelque chose qui était assez intéressant sur cette loi. Oui, il y a l'Association nationale, l'Académie pardon, nationale de médecine qui a réagi, entre autres, hein, ça aussi je vous l'ai mis sur le truc de RDWA, à l'élaboration de cette loi, qui a saluer une politique ambitieuse, mais donc du coup qui doute de la possibilité de la mise en place de cette politique en termes de moyens et en termes de temps, puisque c'est un projet qui est censé se faire sur 3 ans. Et aussi, elle met un petit peu le doigt sur le fait que le projet ne s'intéresse absolument pas. Aux jeunes et à l'enfant, aux personnes qui ont des problèmes d'addiction, à la prévention de la santé, aux réfugiés, et à l'idée de la démocratie, et à l'idée à la nécessité qu'en fait, il doit y avoir une démocratie, une médecine démocratique en France, c'est-à-dire que tout le monde ait facilement et le même droit à du soin, et dans des conditions raisonnables et faciles, quoi. Donc, je pense qu'ils ont un avis assez favorable, parce que tout ça génère énormément d'argent, et que du coup, ça, on va dire, ça valide tout le système médical avec les laboratoires, toute la high-tech qui est... Alors, qui sait très bien, hein, je ne suis pas en train de dire qu'il faut soigner des gens à coup de thé ou j'en sais rien, je ne connais pas du tout la question.
Mais d'autres liens voilà. Dans cette antenne, ne t'inquiète pas, je vais prendre la parole tout de suite.
Ouais, parfait. Et donc, du coup, il y a ça, mais du coup, une grosse interrogation sur quelle est l'intention derrière tout ça. Quelles sont les valeurs qui sont portées par cette politique de la santé, et enfin voilà, et c'est pas la seule ce n'est pas la seule instance à se poser des questions, enfin voilà, il y a plein de trucs. Moi je comprends pas du tout la logique qui est de détruire un établissement qui fonctionnait encore relativement bien il y a quelque temps. Peut-être que c'est une politique qui date d'ailleurs, puisqu'il y a déjà eu des témoignages de personnel hospitalier qui était en place il y a 30 ans, qui disaient « mais oui, mais depuis le début, en fait, on cherche à détruire l'hôpital ». Je ne comprends pas, en tout cas, pourquoi ces 12 millions, on ne les met pas dans favoriser l'hôpital de Ligny qui est ici, en plein centre, qui est un patrimoine, pour moi, vraiment un patrimoine, qui permet aux gens de vivre en centre-ville. Je ne comprends pas pourquoi on n'améliore pas l'existant plutôt que de détruire ce qui existe et construire un nouveau truc. Quoi. Ça, c'est un peu nique la logique. Quoi.
Du coup, je rebondis un peu sur ce que tu dis. En fait, il y a, je ne crois pas une seconde qu'il n'y ait pas une vision derrière ce qui se passe. L'ARS, donc l'antenne régionale de santé, elle a pour représenter aussi son territoire et pas que la santé, parce qu'il tombe directement de l'État. que ce soit la CCD, que ce soit la mairie. On sait qu'avec ces 12 millions, ils vont construire quelque chose où ils vont enlever une bonne partie de ce qui existe déjà. Mais cet hôpital qui existe là, il va devenir quoi ? Et c'est, en fait, c'est ça, moi, qui m'interroge. C'est quel est l'enjeu derrière ? Pourquoi ne pas réhabiliter ? En sachant que, de toute façon, l'État a décidé que peut-être ce sera très difficile de lutter contre, quoique, pourquoi ne pas tenter ? Mais veut enlever certains services. OK, peut-être ces 12 millions peuvent déjà servir à réhabiliter l'existant et à maintenir des services peut-être de meilleure qualité ou dans des locaux plus confortables ou avec un personnel plus présent. Donc pourquoi enlever des services, les délocaliser en laissant un patrimoine qui est là, qui tient encore debout, dans lequel il y a des équipements neufs en partie. Enfin voilà, je me dis que forcément derrière il y a quand même quelque chose. C'est énorme ce bâtiment de l'hôpital.
Oui, c'est complètement énorme.
Donc ça va devenir quoi ? Pour qui ?
Alors du coup, il est détenu, il me semble, par l'ARS, parce qu'il a été vendu. Je crois qu'il a été vendu pour un euro symbolique il y a très longtemps, au moment de la construction de l'hôpital. Enfin, en tout cas, il a été vendu de manière symbolique. Et donc du coup, il appartient à l'Agence régionale de santé. Et du coup, effectivement, l'ARS n'a absolument aucun projet dessus, a priori.
Enfin, un projet public, quoi.
A priori.
Ouais, en tout cas, ouais. Moi, les infos que j'ai, c'est que peut-être, si jamais ça se faisait comme ça, parce que quand même, le président de la Comcom, d'après moi, les témoignages que j'ai pu avoir à droite à gauche, même s'il est, on va dire, même s'il joue le jeu de la politique qui est mise en place, il est quand même inquiet, je pense, de la réaction du public et tout ça, et de ce qui va devenir de son territoire. Je pense qu'il y a quand même voilà, des inquiétudes à ce niveau-là. Voilà. Et du coup, lui, il prévoit de peut-être, si jamais il a la possibilité, de racheter ce bâtiment à l'ARS, de le réhabiliter et faire, je ne sais pas, qu'est-ce qui sera possible, quoi. Voilà. Mais c'est tout à fait, c'est tout à fait du conditionnel, du subjonctif ou de l'imparfait, quoi. Enfin, je pense que c'est pas du tout décidé encore. Ça a été une hypothèse émise comme ça. Pourquoi pas, si jamais il y a moyen, quoi. Voilà. Et par contre, il y a une information. Alors, du coup, il y a deux choses qui sont peut-être importantes à signaler. C'est que le 4 juillet. Donc jeudi prochain, c'est pour ça que je suis là. Il reste combien de temps ? Ok.
Ben, je finis vite. 14 minutes pour faire les 5 sujets suivants.
Ah merde.
Mais c'est un sujet important.
On a quasiment fait une émission monographique sans s'en rendre compte.
Est-ce que je peux juste balancer deux dates parce que c'est assez important. Alors donc du coup, il y a un PLUI. Donc du coup, peut-être aller voir pour comprendre ce qui se passe sur ce terrain. Le 10 juillet, de 18h30 à 19h30, je crois que c'est à la salle polyvalente, mais ça, je suis pas sûr. Faut aller voir sur les sites de la municipalité. Par contre, il y a un conseil communautaire exceptionnel le 4 juillet à la salle polyvalente à 18h, où là il y aura l'ARS, des élus de la Comcom et des élus municipaux. Donc, alors c'est un temps où a priori la parole est publique, au public n'est pas prévue, mais avec l'espoir de qu'il puisse y avoir une prise de parole. En tout cas, moi, ce que j'aimerais voir, vraiment, ce que j'aimerais vraiment voir, c'est que toutes les personnes qui ont été sensibles à la mort de l'enfant de Fabrice et Céline, à toutes les personnes qui se posent des questions sur l'avenir de la santé dans l'Iowa, à toutes les personnes qui travaillent à l'hôpital et qui se disent « Merde, mon taf, je comprends plus comment je le fais, comment ça se passe et qu'est-ce qui va en devenir. » À toutes les personnes qui ont des parents, des enfants qui sont confrontés au système médical, pas confrontés, mais en tout cas qui sont en relation avec le système médical, voilà, qui ont des interrogations, allez voir vos élus. Allez voir vos élus, dites-leur, j'aimerais comprendre, je comprends pas, j'aimerais qu'on en discute, j'aimerais que mon avis soit... j'aimerais qu'on m'explique, j'aimerais qu'on prenne mon avis, j'aimerais qu'on l'écoute, et j'aimerais qu'on fasse avec moi. Donc du coup, je vous encourage déjà à aller voir vos élus, à poser des questions, à vous renseigner, à aller voir, à m'interpeller dans la rue. Si ce que je dis, c'est pas clair, on peut prendre plus de temps pour comprendre, à interpeller des gens qui sont, par exemple, au collectif de défense de l'hôpital, à interpeller des gens qui sont qui travaillent sur Libre Racine, parce qu'eux aussi ils se posent la question de la santé, notamment de la maternité dans le Diois. Allez voir tous ceux qui se sont emparés de plus ou moins loin du sujet et posez-leur des questions. Allez-y et surtout, soyez présents le 4. Même si la parole ne sera pas entendue ou quoi, il faut qu'il y ait du monde, il faut que les gens se rendent, que les personnes qui sont décisionnaires sur ce truc-là se rendent compte que la population a des vraies interrogations, elle est là, elle a envie de connaître le sujet, de savoir ce qui se passe, de comprendre, et voilà.
Alors rappelez-vous où, à quelle heure?
Donc c'est à la salle polyvalente, le 4 juillet, jeudi prochain, à 18h. Soyez présents un maximum. Je vous invite vraiment à être là-bas, et puis voilà, si jamais on a la chance d'avoir un temps de parole, et ben vous vous exprimerez, et puis voilà, ça nous aidera en tout cas à comprendre, et ça nous aidera en tout cas à faire comprendre aux instances décisionnaires que ben nous aussi on a envie de décider des trucs, quoi.
Ok, allez,
merci,
il nous reste
beaucoup.
Donc puis jeudi prochain, enfin, un de ces jeudis à Feu de Tout-Bois ou à la radio. Alors quelques mots sur le service national universel, puisque c'est le 13 juin dernier que 3000 premiers appelés et premières appelées du service national universel ont été présents dans 13 établissements scolaires en France pour accomplir la phase de cohésion entre guillemets du service national universel. Donc je cite par exemple réveil à 6h30, lever des couleurs, chant de la Marseillaise, etc. Et il y a une énorme propagande qui a été déployée par le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, avec l'appui des radios, télévisions, journaux nationaux et régionaux, à l'exclusion de RDY et de pas mal de médias quand même, qui nie le caractère militariste du service national universel. Et en fait, il suffit de lire la presse locale pour comprendre les objectifs militaristes de ce recrutement de la jeunesse. À Valence, au laboratoire, a eu lieu une discussion hier soir, début de la causerie, et avec des nouveaux livres qui sont arrivés au laboratoire anarchiste pour aider à construire notre opposition au militarisme, qui s'ajoute à ceux déjà cités ou déjà présents dans le, et puis qui sont cités dans le blog du laboratoire anarchiste, donc allez le voir. Par exemple, le livre de Louis Lecoin, L'antimilitarisme libertaire de Pierre-Valentin Berthier. Voilà, je citerai ces deux-là, je vous invite à aller en savoir plus sur le blog du laboratoire anarchiste de Valence, et puis sur tout ce qui se passe à propos du service national universel. Parce qu'en fait, c'est aussi une des façons dont on nous rend malades en nous élevant les uns les unes contre les autres, et c'était une contribution à cette discussion aussi. Ce sera une modeste contribution bibliographique. Il y a aussi le fait qu'on nous rend malades et que dans ces 200 années de capitalisme qui viennent de s'écouler, on a de plus en plus de maladies qui sont les maladies de notre système mère, de notre système même. On perd la mémoire de notre histoire et on a Alzheimer, par exemple. Le raccourci est dû au fait qu'il est bientôt 21h, mais de nombreuses études sont à l'appui de ce genre de raccourci, ou de nombreuses contributions en tout cas. Donc on prévoit les opérateurs téléphoniques et les autorités, l'autorité prévoit de déployer la 5G partout, par exemple. Donc on sera encore plus malade. On a déjà des engins, on nous fournit des engins qui nous rendent malades, et ça fait des années que ça dure, avec les engrais, les pesticides, les guerres, la première guerre mondiale, la deuxième, etc. Donc en fait, est-ce qu'on aurait besoin d'hôpitaux et de grands trucs technologiques si on était dans une société plus simple où on boit du thé et qu'on fore des trous à la chignole, par exemple, et qu'on se passe en grande partie d'électricité, qui contribue aussi à nous rendre malades, à faire des cancers, par exemple. Alors ensuite, oulala, on a des cancers, il faut des scanners. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment avec les scanners qu'on soigne les cancers, mais vous voyez le genre. Donc voilà. Alors allez lire Michel Dunan, Le temps du sida. C'est un livre qui date de la fin du XXe siècle, qui a été écrit par un médecin homéopathe, et qui décrit très bien, et ce livre est toujours d'actualité, le type de médecine qui va avec le type de société qu'on a, et puis un peu des choses qu'on a tendance à oser penser de plus en plus, qu'en changeant radicalement de société, en faisant ce qu'on peut appeler une révolution sociale, et du coup on aura aussi pas mal d'autres pistes qui s'ouvriront en ce
rendra compte que la concurrence ou que la précarisation des gens n'est pas une bonne solution pour avoir une meilleure santé, un mieux-être et tout ça. Et bien voilà, je pensais pas bâcler un sujet d'une demi-heure en... Mais voilà.
C'est fait.
Mais voilà, c'est fait. Je prépare une petite... parce que tout à l'heure, je vous ai annoncé qu'on entendait l'usine, mais en fait, j'ai l'impression qu'on a entendu les enfants perles. Enfin bon, là, cette fois, on entendra l'araignée de Yannick Rastamitouf. Et on peut dire que le coup de gueule de... qui était prévu, c'était... Allez, vas-y, ouais, je te laisse le dire.
Coup de gueule des sorties piscine annulées pour cause de forte chaleur, ce qui est quand même un non-sens en soi. voilà. Ma fille était dépitée de ne pas pouvoir aller à la piscine hier parce que il fait trop chaud et donc des risques d'insolation sont possibles, ce que je conçois tout à fait vu l'aménagement de la piscine de Die, où il n'y a pas un poil d'ombre, pas un arbre, pas voilà, ce qui nécessiterait peut-être un peu plus de travail pour ramasser les feuilles qui tombent. Et pourquoi pas employer quelqu'un de plus, donner un emploi en plus à quelqu'un, ce qui serait quand même...
Sachant que c'est un arrêté préfectoral, c'est-à-dire que c'est un préfet dans un bureau avec un climatiseur qui a dit non, pas de piscine pour tous les enfants de la Drôme.
Ah, ok.
Voilà, et peut-être pas qu'en Drôme d'ailleurs, hein, il est fort probable que ce soit assez généralisé. En tout cas, oui, coup de gueule, parce que c'est juste complètement un non-sens. Il fait trop chaud, on va pas à la piscine. Alors qu'on incite tout le monde à se s'humidifier, aller dans les zones humides, mouillez-vous, sautez dans l'eau. Et ben non, en fait, les enfants ne peuvent pas parce qu'il fait trop chaud. Voilà, c'est très dommage. Donc c'était le coup de gueule du jour. Mettez des arbres à la piscine, voilà.
Allez, spéciale dédicace aux jeunes qui nous écoutent, aux personnes qui s'occupent des jeunes qui nous écoutent et qui nous permettent des fois d'être à la radio, aux jeunes qui nous écoutent et qui s'occupent eux et elles-mêmes d'elles-mêmes, qui nous permettent aussi d'être à la radio. Et puis, j'avais pensé qu'on évoquerait des choses à propos des Gilets jaunes, je l'avais même annoncé, mais voilà, je ferai aussi une référence bibliographique dans le temps qui nous reste, pendant qu'on écoute le début de Yannick Rastamitouf, l'araignée. Cette lecture de Temps Critique, un hors-série de la revue Temps Critique, qui s'appelle Gilets jaunes, une résistance à la révolution du capital, qui est un texte écrit à la demande de la revue suédoise par l'équipe rédactionnelle de Temps Critique et qui, ma foi, est une très bonne critique du système qui est faite par Temps Critique grâce au mouvement des Gilets jaunes. Merci à tout le monde, merci à tous ceux et celles qui nous permettent cette radio vive, à l'association Erdiwa, venez adhérer avant qu'il soit trop tard. Et puis si c'est trop tard, venez quand même. Bonne écoute, salut.
Salut.
Je n'ai pas d'amis, j'tisse ma toile, j'tisse ma toile, je n'ai qu'une envie. Tisser ma toile, tisser ma toile, chibidi-bidi-douap, douap-ap-ap, chibidi-bidi-douap, douap-ap-ap. Ma toile, je fais peur au plus grand et au plus petit. Je fais rien de mal, on m'écrase, c'est pas normal. Chibidi-bidi-douap, douap-ap-ap, chibidi-bidi-douap, douap-ap-ap. Si c'est ma toile, chibidi bidi douap, douap papap, chibidi bidi.